La philosophie peut-elle guérir? Wolfgang Wackernagel au micro de Serge Marjel.
Wolfgang Wackernagel, nous sommes au dernier jour de notre émission sur « La philosophie peut-elle guérir ?» et nous avons dressé une sorte de panorama, disons un peu historique, entre le mythe, la philosophie grecque, le christianisme, le Moyen-Âge et hier, les antécédents philosophiques de la psychanalyse et Freud évidemment en tout particulier. Alors quelles sont les formes selon vous qui représente le plus aujourd'hui cette vocation du médecin de l'âme?
On s'est donné successivement la parole, on s'est renvoyé la balle beaucoup plus qu'on l'a fait avant, à la manière de ce lanceur de balle du poème de Rilke qu'on avait mentionné dans l'interview sur Gadama, donc de l'herméneutique. Ça c'est un des aspects actuels d'une philosophie qui touche peut-être aussi à la guérison. Je sais que Hans-Georg Gadamer s'est intéressé aussi au problème de la médecine. Je tiens aussi à mentionner ce qui m'a amené moi-même, il y a environ 12 ans, à m'intéresser à ces questions, c'est ce développement des cabinets de consultation philosophique vers 88, où j'ai rencontré Gerd Aschenbach, qui avait fondé le premier cabinet de consultation philosophique dans la région de Cologne. Aschenbach était quelqu'un de prédisposé à cela, d'une part par son maître Odo Marquardt, qui justement avait étudié ses antécédents philosophiques de la psychanalyse. C'est un peu de ses travaux que je m'étais inspiré à l'époque aussi pour présenter cela dans le contexte d'un cours. C'était environ à 7 ou 8 ans à Lausanne. Dans cette perspective, dont à l'époque j'ai rencontré Aschenbach, il avait une formation de psychanalyste ou de psychologie, il avait fait des études de psychologie, ensuite il a fait un doctorat en philosophie, et ne trouvant pas vraiment de débouché en philosophie, ce qui est souvent le cas, c'est de très belles études et c'est souvent difficile de trouver un débouché et d'être justement payé pour ce qu'on sait faire, il a décidé d'ouvrir un cabinet non pas de consultation psychothérapeutique, de psychothérapie ou psychanalyse ou quelque chose de genre, alors même qu'il avait une formation dans ce domaine, mais de réapproprier au nom de la philosophie ce domaine qui effectivement, comme on l'a vu à travers notre exposé historique, était un domaine aussi privilégié de la philosophie, de le réapproprier en termes contemporains, en tenant bien sûr compte aussi de l'acquis, de l'apport de tout ce qui s'est fait dans le sillage de Freud, de Carl Gustav Jung et des nombreuses thérapies qui sont venues après, que je mentionne juste, il faut quand même mentionner notamment la Daseinsanalyse, l'analyse existentielle qui est inspirée de la pensée d'Heidegger, de l'existentialisme. On a aujourd'hui aussi une école assez importante, c'est la logothérapie, la thérapie par le sens, mais comme on a vu, ça c'est déjà aussi une chose qui est introduite par Platon, le fait de chercher, de donner un sens à la vie est effectivement une thérapie philosophique pour l'âme, qui donne une raison d'être, une raison de vivre. Toutes ces choses, à l'époque, elles ont été relancées, assez médiatisées, d'ailleurs, je veux bien le dire, il y a eu énormément d'échos médiatiques, surtout en Allemagne, mais aussi en France, en Suisse, et il a créé un mouvement qui a pas mal d'adhérents, curieusement moins dans le monde de la francophonie, mais beaucoup dans le monde anglophone, dans les régions nordiques. Je sais qu'en Norvège, il y a pas mal de consultants en philosophie, j'en connais un. Il y a tout un mouvement aux États-Unis, il y a même une association, j'ai encore une fois récemment vérifié sur Internet, ces associations se développent. Il y a aussi une femme que je connais qui est à Tel Aviv, un cabinet de consultation philosophique. Donc on voit un peu partout dans le monde des gens qui tout à coup reprennent cela en ces termes et pensent de ce fait pas forcément faire concurrence aux consultations psychanalytiques, psychothérapiques et autres, mais apporter peut-être une autre chose, un autre créneau dont certaines personnes pourraient avoir besoin dans une situation différente. On va essayer de revenir là-dessus, mais là je vais quand même poursuivre cet aspect historique. Ces 10 dernières années, jusqu'à l'an 2000, il y a eu un grand nombre de congrès internationaux. Je crois que le 5e était l'année dernière à Oxford, il y en a eu un à New York. Et il y a aussi, peut-être moins en Europe, mais aux États-Unis, une prise en charge en partie universitaire de ces thèmes. Des thèses de doctorat ont été faites sur ce sujet, notamment par un Canadien, à ma connaissance. C'est quelque chose qui, effectivement, est d'une grande actualité. Et c'est parce que c'était aussi actuel que je me suis moi-même demandé à un moment donné si j'allais pas ouvrir un cabinet de consultation philosophique. Je n'ai pas ouvert ce cabinet, je n'ai donc pas donné des consultations philosophiques pour l'argent, peut-être par peur d'être foudroyé par Zeus, comme comme Asclepios. Cependant, je pense que ce reproche est illégitime. Il me semble qu'aujourd'hui, dans un contexte actuel, il serait tout à fait légitime pour quelqu'un qui a une longue formation philosophique de donner des consultations et du moment qu'il donne de son temps, que des gens payent pour ce temps, à condition que ce soit effectivement quelque chose de réglementé, de raisonnable. Je note quand même qu'il y a un certain inconfort dans cette situation du consultant philosophique que j'observe aussi. Il y a des gens, c'est énormément une question de personnalité. Quelqu'un comme Aschenbach fait ça très bien, d'autres gens aussi. Je crois qu'il y a aussi en Suisse romande. Mais ils n'ont pas un statut tout à fait clair, justement parce que c'est encore un peu en marge et peut-être c'est bien aussi comme ça. Peut-être ça va encore plus se développer et changer. Il y a des points positifs dans cette approche, mais au fond qui ont de nouveau inspiré aussi les consultations de type psy, justement. Une des caractéristiques des consultations philosophiques, c'est que la personne qui vient voir le philosophe n'est pas considérée comme un patient, comme un malade. Deuxièmement, en principe, ce n'est pas une thérapie qui dure longtemps. C'est-à-dire que plus vite la personne est de nouveau indépendante, mieux cela vaut. Mais il y a effectivement un certain nombre de cas où une consultation de ce type est sans doute la plus légitime. Ça, c'est effectivement tout à fait vrai. Une personne qui, justement, peut avoir des problèmes, elle peut même souffrir de ces problèmes et qui a besoin d'une objectivation sans pour autant se considérer comme malade. Donc, il est tout à fait clair que de nos jours, il y a aussi beaucoup plus de réglementation et c'est bien, c'est tout à fait juste. Donc, de toute façon, tout ce qui relève de la médecine, surtout de la médecine du corps ou de la psychiatrie, revient à la psychanalyse ou la psychiatrie. C'est pas le domaine de la consultation philosophique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a tout un domaine où, d'une part, notamment en marge de la médecine, c'est un fait que les médecins sont de plus en plus pris par l'énorme effort de maîtriser leur science, de maîtriser les appareils qui sont liés avec, de maîtriser toute la science des médicaments qui sont liés avec une thérapie. Et souvent, ils ont moins de temps ou peu de temps pour s'occuper finalement du sens que le patient pourrait avoir en besoin de recherche dans le fait qu'il est malade, qu'on a vu que c'est au fond, la maladie c'est un drame, ça peut être une petite, une grande descente aux enfers, donc rien n'a changé depuis Asclepios quand on vit cela individuellement, et là une quête de sens, qu'elle soit d'ordre de la foi, donc d'une religion ou d'une confiance avec le médecin, beaucoup de médecins ont semble-t-il, justement dans le cadre de ces études sur la légitimité de la consultation philosophique, ont reconnu qu'il y avait là quelque chose à retrouver, comme dans le sens de Leibniz, comme vous avez dit, une dimension philosophique qu'ils n'ont pas toujours le temps d'assumer. Et là, je sais qu'un certain nombre de cabinets médicaux, notamment, je l'ai entendu, je crois, à Vienne, mais aussi en Allemagne, se sont alliés à des consultants philosophiques pour traiter de certains cas qui ne relèvent pas d'un autre domaine que de celui-là, donc justement d'une quête du sens par rapport à une situation difficile d'ordre médical.
Vous dites, Wolfgang Wackernagel, et je vous suis pour une part, que depuis Asclepios, d'un certain point de vue, rien n'a changé et que toute douleur nous amène profondément dans des ténèbres souvent très douloureuses, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que beaucoup, beaucoup de choses ont changé? On regarde que depuis Asclepios, on a passé du mage au philosophe, puis du philosophe au prêtre, puis du prêtre au psychologue, au psychanalyste, on a parlé de Freud, et on voit quand même qu'aujourd'hui, avec, disons, des découvertes scientifiques, avec un développement technique, on en vient de plus en plus à sophistiquer le royaume du cerveau, on connaît des mystères qu'auparavant on n'avait pas la possibilité d'aborder, et finalement on a l'impression aujourd'hui que l'âme, c'est l'affaire presque de neurologues, c'est l'affaire de spécialistes, de techniciens qui abordent ce qu'on appelait auparavant l'âme comme ils abordent un organe. Et finalement, la question d'une maladie de l'âme, aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'actualité, devient presque superflue. On ne sait plus très bien de quoi l'on parle. Parce que, et on le voit aussi avec le traitement des médicaments, on peut traiter ce qu'on appelait l'âme comme on traite justement le foie ou les reins.
Là, c'est tout le problème, mais c'est quand même fascinant de voir ça. C'est tout le problème des deux approches de la connaissance humaine. Et l'approche objective a atteint un degré de subtilité où, paradoxalement, elle doute aussi de son objectivité. C'est notamment le cas de la physique. Quand ils arrivent dans les particules élémentaires, ils m'ont donné, ils voient que c'est plus que l'énergie. Il y a toutes sortes de thèses qui ont été développées, même par rapport à ces travaux dans le CERN. Certains des gens qui développent ces thèses sont pris moins au sérieux que d'autres. Moi, je ne peux pas juger de cela, mais je constate que dans cette recherche objective, est-ce que finalement les états d'âme, c'est plus qu'une question de biochimie, en ajoutant tel et tel ingrédient, on peut modifier, guérir une chose. C'est clair que on peut guérir une dépression ou soigner une dépression, semble-t-il, par certains de ces éléments biochimiques, mais je crois aussi que ce n'est pas tout, cela reste jamais tout. Alors là, s'il s'agit de faire référence aux autres aspects, je crois que plus la réalité de l'expérience est fondamentale, moins elle a changé avec le temps. C'est-à-dire qu'en quelques années, un progrès objectif extérieur se fait rapidement, on a une meilleure machine, un meilleur enregistreur, une meilleure machine à laver, mais les expériences fondamentales de la conscience humaine n'ont pas changé en 2000 ans, et une bonne partie de ce qu'exprimaient les Grecs est encore actuelle aujourd'hui. Et c'est même là où je crois que la science objective a besoin de connaître l'histoire de l'humanité, connaître la manière dont les gens ont perçu le monde il y a 2000 ans pour avoir ce point de repère. Et c'est là où la philosophie, qui est issue justement d'une tradition très ancienne, permet, dans un monde où on est de plus en plus déraciné, de redonner des racines, de donner une référence, ce qui ne doit pas empêcher de se renouveler. Donc c'est pas qu'il s'agit de devenir conservateur et de s'attacher à des structures pour jamais les changer, mais je crois que on gagne à savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va aller. Et dans la situation actuelle, c'est justement une des choses qu'on observe. C'est pas seulement moi qui le dis, que la science, les grandes découvertes du XXe siècle, dans une grande partie, cette période de l'Eureka, en quelque sorte, elle est faite. Aujourd'hui, on est en train d'étudier l'ADN, des choses extrêmement fines. Et semble-t-il, c'est plus vraiment des grandes découvertes, mais des séquences, des quelques nouvelles séquences qu'on ajoute. Et là, d'ailleurs, j'ai aussi une pensée assez curieuse, quand même, pour dire combien, dans cette perception visionnaire, même dans le rêve d'Asclépios, il y a peut-être déjà une vision de la science contemporaine. Le symbole d'Asclépios, c'est un bâton avec un serpent enroulé autour. Ce serpent est d'ailleurs, chez Asclépios, un symbole très ambigu. C'est d'une part la maladie, c'est le serpent, c'est quelque chose de terrifiant. Les Grecs étaient bien conscients, c'est pas que les chrétiens, que le serpent est ou peut être quelque chose d'extrêmement maléfique, quelque chose qui donne la mort. Ça peut symboliser le serpent qui enroule le bâton. C'est un peu comme le patient qui est enroulé par la maladie et qui est prisonnier de cela. Mais en même temps, le serpent, c'est quelque chose de libérateur. Il y a ces deux aspects qui font que Asclépios est un demi-dieu, à la fois un dieu des ténèbres, un dieu, pourrait-on dire, chtonien, comme disent les Grecs, qui traduit ce lumineux, mais un peu de l'intermonde, et quelqu'un qui, justement, de ce fait, parce que c'est un être intermédiaire entre le dieu et les hommes, un peu comme le Christ, est en mesure de guérir. Et là, justement, le rapprochement avec la science moderne est quand même assez stupéfiant. Ce serpent enroulé comme une spirale, ne serait-ce pas déjà une visualisation de l'ADN? Donc on retrouve des schémas, des symboles anciens qui confirment un monde qui est à la fois enraciné dans ces visions anciennes et qui, là je suis bien d'accord avec vous Serge Margel, a énormément changé.
Mais à vrai dire, Wolfgang Wackernagel, est-ce que c'est pas aussi toute la question des sectes qui se pose ici?
Les sectes sont peut-être justement le signe qu'actuellement on vit aussi un grand malaise au niveau du sens, au niveau d'une perte du sens, au niveau d'un déracinement dans des traditions, dont il faut bien dire que souvent elles sont elles-mêmes issues d'une secte. Il faut quand même dire que le christianisme était une secte issue du judaïsme, qui a aussi intégré d'autres composantes. Hein. Le Christ étant allé en Égypte, des fois je me suis même demandé si le Christ qui était en Égypte n'est pas été en contact avec des bouddhistes venus par Alexandre, puisque c'était Alexandrie. Mais ça c'est des hypothèses. Le mot secte fait réagir particulièrement fort aujourd'hui, parce que certaines sectes sont réellement criminelles, posent des bombes, etc. Donc il y a un aspect médiatique aussi. Il y a aussi l'aspect du charlatanisme, mais celui-là a toujours existé. Hein. Il y a toujours eu le problème des charlatans, de gens qui abusent. Comment reconnaître un charlatan d'un véritable médecin? Ces critiques, même la critique de Platon par rapport aux sophistes, relève de cela. Autre chose, c'est que des sectes, donc il y en a toujours eu, et elles n'ont pas toujours eu un sens négatif. Je crois qu'encore maintenant, dans le bouddhisme, on parle de sectes sans connotation négative du tout. Et on pourrait aussi dire évidemment que les différentes écoles philosophiques, hein, si vous avez Platon qui ouvre une académie ou Épicure qui achète pour 30 mines d'argent, ce qui est l'argent à l'époque, achète un jardin, je sais pas, quelque part au Petit Lancy ou à Colonie, c'est plus riche, c'est peut-être mieux, ou même à Collonges-Bellerive, que dans ce jardin il fait un mur et qu'il reçoit toutes sortes de gens, je suis tout à fait certain qu'on dirait que c'est une secte. Et à l'époque d'ailleurs, ces gens ont aussi payé. Socrate était au fond aussi quelqu'un qui avait une secte, une petite secte, dans laquelle il corrompait la jeunesse, c'est ce qu'on lui a reproché. Il avait toutes sortes d'amis de bonne famille de Athènes qu'il admirait, Alcibiade et autres. C'était des aristocrates et il a été condamné pour impiété parce qu'il remettait en cause les préceptes antérieurs et pour avoir corrompu la jeunesse. Donc si ça se trouve, il a été condamné pour ça. La secte du Nazaréen, donc du Christ, c'est pareil. C'est tout une question de quel point de vue on se place. Et c'est extrêmement difficile de juger de ça de manière objective. C'est un des grands problèmes actuels. Est-ce qu'on peut supprimer les sectes? Je pense que c'est impossible parce que c'est un symptôme de quelque chose. Et il y a quelque chose de positif et de négatif dans le phénomène sectaire. Il faut voir les deux. Il y a effectivement quelque chose de dangereux, surtout quand ces mouvements sont fanatiques, extrémistes, qui ne reconnaissent pas d'autres aspects. Autrement, ben, une bonne partie des choses qui ont été élaborées du savoir humain dans l'histoire, si on y regarde sincèrement, ont été élaborées dans le cadre d'écoles philosophiques, d'écoles religieuses, de cercles qui, au sens négatif, pourraient aussi être diffamés comme sectes. Pour ce qui est de la philosophie, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est qu'une démarche sincèrement philosophique a, à mon sens, moins de chances d'être fondatrice d'une secte qu'un autre mouvement plus dogmatique. Je pense que tout philosophe qui a un succès est potentiellement le maître d'une secte. Dès qu'il fait école, il fonde une secte. Mais dans la mesure où la philosophie a un souci de rationalité, un souci de modestie aussi, je crois que la philosophie, dans sa tradition socratique, est basée sur l'ignorance socratique. Dans un premier temps, Socrate dit justement par rapport aux sophistes, « Ce que je sais, dans un premier temps, c'est que je ne sais rien ». La philosophie elle-même, quand on voit la définition du mot « philosophia », l'amour de la sagesse, c'est qu'on est amoureux de la sagesse, on la détient pas. Une secte dangereuse, à mon avis, c'est une secte qui prétend détenir la sagesse, donc détenir la vérité, et être en lutte avec le reste de la société, disant que tout le reste de la société est dans le mensonge. Elle n'a pas tout à fait tort dans la mesure où on est tous plus ou moins dans la connaissance et dans l'ignorance, mais on l'est tous les humains, c'est le statut même. Par définition, l'être humain n'a pas accès à toute la connaissance. Chaque être humain, qu'il soit membre d'une secte, qu'il soit gourou, à ce jour, a connu le destin des mortels. Donc, je crois qu'une approche sincèrement philosophique peut générer des écoles, mais pas au sens négatif, une secte.
Vous parlez, Wolfgang Wackernagel, de l'ignorance, et en particulier de l'ignorance socratique. Pour Platon, l'ignorance symptomatisait, on pourrait dire, puisqu'on parle en termes de clinique, de médecine, la maladie de l'âme. L'ignorance, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec notre pouvoir de connaissance hyper sophistiqué, on en vient à supprimer cette maladie, qu'est la maladie de l'âme, quelle ignorance?
Le monde actuel est quand même aussi terrifiant, c'est un monde faustien. Et si l'homme est absolument certain qu'il peut être Dieu sur Terre, remplacer Dieu, je crois que c'est un peu inquiétant. Et je ne crois pas que c'est le cas de la science. La science est comme la philosophie, elle se remet toujours en question. Davantage même que les sciences humaines, davantage que les religions, une théorie est toujours appelée à être revue par d'autres scientifiques. Et si on prend des exemples restreints, la science est extrêmement exigeante à ce niveau-là. Si un scientifique énonce une expérience, cette expérience doit être répétable dans les mêmes conditions ailleurs sur le globe et donner le même résultat. Donc, les certitudes scientifiques sont à la fois des certitudes et elles sont aussi, si c'est des thèses, puisqu'une bonne partie est basée sur la spéculation, elles peuvent aussi être remises en cause. Ça, c'est certain. Je crois que c'est là où, en fin de compte, la science est encore très proche de l'esprit de la philosophie il y a plus de 2000 ans, où on s'est mis à douter de la religion, à penser sur la religion de manière autonome et rationnelle, tout en sachant que notre savoir est limité. Il y a un certain espace de l'entendement et dans cet espace, il n'est pas question de répondre à toutes les questions, mais il s'agit plutôt de bien poser ces questions.
La connaissance du monde, la connaissance de la nature des choses, on a parlé aussi du texte de Lucrèce, on le voit, ne nous apporte pas ce calme, cette ataraxie épicurienne, cette tranquillité de l'âme. Pour ma part, je trouve assez questionnant de voir que plus la connaissance des choses positives, des connaissances positives, des choses de la nature s'élabore, se raffine, et on n'a pas forcément eu un calme. L'homme ne se calme pas à connaître la nature. Alors, est-ce qu'il faut en déduire que ces sagesses grecques qui attribuaient la tranquillité de l'âme à la connaissance du monde se sont peut-être fourvoyées? Connaître le monde, ça ne nous apaise pas de nos blessures et de nos inquiétudes quant au monde.
Je crois surtout que c'est une approche qui s'est perdue. La question, au fond, qui constitue le thème de notre émission, la philosophie peut-elle guérir? On pourrait entendre ce terme de guérir dans les deux sens, c'est-à-dire au sens actif de guérir l'âme des gens de l'ignorance, mais aussi guérir au sens passif. C'est-à-dire que la philosophie elle-même, d'une certaine manière, s'est un peu écartée, pas seulement à mon sens, d'autres gens le disent aussi, de sa vocation première. Ce qui est d'ailleurs légitime, ce n'est pas à remettre en cause, mais il y a le fait que la philosophie, par rapport, c'est notamment Gadamer qui le dit, par rapport à l'énorme essor des sciences objectives, la philosophie elle-même s'est aussi placée dans un contexte où elle cherche à être proche de cette démarche scientifique, à être une science humaine par excellence. Mais une science humaine ne sera jamais une science de l'exact. Cependant, c'est un constat, les courants philosophiques dominants, que ce soit la philosophie analytique, la phénoménologie, et en troisième lieu seulement l'herméneutique, c'est peut-être les trois principaux courants philosophiques qui sont représentatifs aujourd'hui, sont extrêmement proches, pour ne pas dire alignés, à une démarche scientifique, donc une logie plutôt qu'une sophie. Donc la sophie qui a été perdue au siècle dernier, à mon sens, elle est en passe d'être retrouvée, mais sans forcément parler d'un retour à l'irrationnel. C'est une phase de l'occupation même de la philosophie, de s'aliéner d'elle-même d'une certaine manière pour être aussi scientifique que possible. Et cette phase, on la connaît actuellement. Peut-être aussi qu'elle touche un peu à sa fin et qu'il y a un renouvellement dans cette direction qui va se faire. Ça, c'est tout à fait ma conviction. La philosophie comme recherche de l'eudémonisme, de l'ataraxie, donc une sorte de sophiatrie, si j'ose dire, qui est à la fois une philosophie qui guérit, mais aussi le fait de guérir la sagesse, c'est peut-être aussi une chose en cours, et c'est certainement parce qu'il y a une crise du sens sur ce plan-là que tellement de gens sont perdus. Visiblement, ce développement scientifique a plutôt déraciné les gens, ça on le sait. Donc là, il y a effectivement un travail à faire, et je pense que c'est le travail du 21e siècle. C'est parce que des gens comme vous, Serge Margel, parlaient d'Asclépios et d'ADN, enfin qu'on lit ça à l'ADN comme je l'ai fait, je pense qu'il faut ces deux aspects pour continuer, pour réussir le siècle prochain. Il faut à la fois avoir cette vision de l'intériorité et bien reconnaître que pour ce qui est de la maîtrise de l'intériorité, les traditions anciennes ont peut-être perçu ça mieux que nous et dans une pureté que nous ne pourrons jamais avoir actuellement dans cette période agitée où tout est en réseau, ordinateur, internet, etc. Ça explique cette fascination d'ailleurs en Occident, que ce soit le christianisme où j'ai beaucoup parlé du bouddhisme, mais il y a aussi d'autres options, c'est peut-être d'anciens mouvements spirituels, c'est peut-être plus sûr que des sectes actuelles parce qu'elles montrent cet aspect de racine. Je pense que ce qu'on a à apprendre des traditions spirituelles, c'est celles qui sont anciennes, qui ont un aspect traditionnel, parce que là, elles permettent d'avoir une certaine fiabilité, et parallèlement à ça, il y a effectivement ce renouvellement énorme et la nécessité de rechercher une nouvelle éthique. Et c'est pas étonnant que par-delà les trois courants philosophiques que j'ai mentionnés, j'aime bien le chiffre 3, mais il y a souvent les choses qui vont par 3, il y a ce qui prend un peu la relève, c'est effectivement la recherche d'une éthique, d'une bioéthique, d'une éthique dans le comportement. On constate que on peut plus voir les choses uniquement en termes de socialisme. Quant à l'économie mondiale, cet équilibre entre socialisme et libéralisme ou cette lutte, il y a aussi la composante environnementale qui joue un rôle, indéniablement. Donc, toutes ces choses sont en train de se mettre en place. Mais pour ce qui est du thème de notre émission ici, on constate simplement que par rapport à la médecine de l'âme, il y a actuellement trois visages qui, au fond, le représentent. Et ces visages sont à la fois anciens et nouveaux, tous les trois. On a le prêtre hérité du Moyen-Âge, on a le psychothérapeute et on a de nouveau le philosophe. Ces trois instances qui jouent un rôle très différent, qui, à mon sens, qui devrait toujours être vu dans une complémentarité et pas dans une opposition.
Wolfgang Wackernagel, je sais que vous vous intéressez beaucoup à cette nouvelle forme de discussion philosophique que sont les cafés philosophiques, peut-être assez proches des cabinets philosophiques dont vous venez de nous parler il y a quelques minutes.
Je suis content, Serge Margel, qu'on termine cette série d'émissions avec ce thème qui, effectivement, m'intéresse beaucoup. Je crois que les cafés philosophiques sont un sous-produit des cabinets de consultation philosophique qui a le mieux réussi dans la francophonie puisqu'il a même été créé dans ce contexte. En effet, le fondateur des cafés philosophiques, le regretté Marc Sautet, avait un cabinet de consultation, il est passé à la radio et on lui a reproché la fameuse vénalité, pourquoi est-ce que vous demandez de l'argent pour vos consultations? Et il a dit, ça c'est comme ça, je donne de mon temps, mais surtout, si vous voulez m'avoir gratuitement, vous pouvez me voir tous les dimanches matins à 10h au Café des Phares. Et énormément de gens sont venus. Et ça a instauré ce principe d'une part de la gratuité du café. C'est un lieu, c'est une sorte de nouvelle agora, une place publique comme celle où Socrate parlait. Et on se réunit pour parler de différents thèmes. Et par rapport au thème de notre discussion actuelle, c'est-à-dire la guérison philosophique, on peut dire que ces cafés philo ont aussi plutôt un sens de médecine préventive plutôt que d'être une thérapie collective. C'est à l'image des cabinets philosophiques. Ces cabinets ne sont pas une psychothérapie, mais plutôt quelque chose où on s'enrichit par le sens pour ne pas tomber malade. Donc il n'est pas question de maladie. Au café philo, on ne vient donc pas pour une thérapie de groupe, on ne vient pas se faire soigner collectivement. C'est un lieu où les gens viennent se réunir par une motivation positive, celle de la quête d'un plaisir, il faut bien dire un plaisir distingué, un plaisir qui est celui d'un sens de la vie, et donc échanger différents éléments pour approfondir ce sens et tout ce qui est relatif à une explication, à une appréhension plus profonde et intelligente de la vie.
Au micro de Serge Margel, c'était Wolfgang Wackernagel, et ainsi se termine cette semaine sur la question « La philosophie peut-elle guérir ?»